Remue Ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, Onde Femme comme tous les mercredis, en direct de 17h jusqu'à 18h30 pour Remue Ménage. 18h30, vous retrouvez les informels de Radio Pleine Lune. Alors aujourd'hui dans Remue Ménage, je vous propose un grand sujet qui se partagera en deux émissions en fait. Aujourd'hui, mercredi et mercredi prochain, sur le thème « Être femme et immigrée ». Alors dans quelques instants, je vous propose ce très grand sujet. Je crois que l'idée est d'aller le plus au fond possible de la question. Mais tout de suite, Gianna Nannini.
Voglio uno scandalo, voglio uno scandalo, l'ultimo scandalo, voglio uno scandalo io con te e tutti i figli tuoi.
Gianna Nannini dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Alors cet après-midi, je vous le disais, je vous propose un dossier étalé sur 2 semaines, réalisé dans le contexte de Genève, et ce qui permettra de comprendre ce que c'est que d'être aujourd'hui femme et émigrée. On connaît bien sûr la situation des émigrés depuis longtemps, elle a été heureusement un petit peu étudiée et essayée d'être comprise, mais souvent la situation des femmes émigrées est longtemps restée sous silence. Alors faisons peut-être pour commencer un petit rappel. Partir de son pays n'est jamais un choix facile. On ne quitte pas sa culture, son pays, son environnement social à la légère comme ça. Partir, c'est pour les uns souvent d'abord l'espoir de ne plus seulement survivre dans leur pays, mais d'avoir une vie meilleure dans un pays où l'on sait très bien que l'on y vit bien. Pour les autres, eh bien, c'est aussi l'espoir de trouver la sécurité, la liberté et fuir les menaces et la répression qu'ils vivent dans leur propre pays. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. Pour ces milliers de femmes et d'hommes qui arrivent chaque année en Suisse, eh bien, c'est chaque fois une idée bien précise qui les a conduits à partir. Et ce n'est pas simplement faire un voyage, comme parfois les réactions aujourd'hui à l'égard des réfugiés ou des immigrés laissent à penser. De la part des Suisses, qui sont tellement soucieux de leur petit confort personnel et n'ont pas à la tête que peut-être on pourrait en Suisse partager ce bien-être que nous avons. Alors, l'immigration est bien sûr un vieux problème. C'est pas, évidemment, je ne creuse pas, je ne touche pas à un problème nouveau. Et il concerne non seulement la Suisse, dans les réactions toujours plus virulentes à l'égard des étrangers en Suisse, mais aussi l'Europe et le monde entier, entre autres parce que l'on sait très bien que c'est le tiers-monde, pourtant si démuni, qui accueille la majorité des migrants du monde, les réfugiés en particulier, et que dans les pays occidentaux, nous n'en accueillons qu'une très très petite partie. Mais c'est un problème qui garde bien sûr toute son actualité, car chaque jour on annonce l'arrivée de nouveaux immigrants poussés par un nouveau problème, un nouveau conflit qui a surgi dans le monde. Et surtout de la part des gens venant, surtout de la part des pays des plus défavorisés vers les pays les plus favorisés. Par exemple, bien évidemment, je le lisais hier dans les journaux, les habitants des pays de l'Est qui seront peut-être 22 millions de chômeurs cette année, y compris ceux de l'ex-URSS, et bien sûr aussi les Yougoslaves victimes du conflit civil qui ravage leur pays. Et dont la Suisse, rappelons-le, parce que c'est important de mettre le doigt là-dessus, voudrait aujourd'hui limiter leur arrivée en imposant l'obligation d'un visa d'entrée à ces gens alors qu'ils sont menacés par un grave conflit. Nous en reparlerons en fin d'émission puisque une pétition circule à ce sujet aujourd'hui à Genève. Alors, on doit donc considérer que le problème de l'immigration est une chose permanente et qu'il n'y a pour le moment aucune raison, bien évidente, que cela s'arrête. Alors à partir de ce constat, eh bien, c'est à chacune et à chacun d'entre nous, et bien sûr à nos gouvernements en particulier, que la présence d'émigrés pose de nombreuses questions, mais entre autres celle du partage des richesses, comme je disais tout à l'heure, d'un certain bien-être, mais aussi celui d'accepter les différences, culturelles notamment, et qu'il s'agit de placer ces gens plutôt dans une perspective d'intégration et, espérons-le, peut-être un jour, d'égalité. Alors, de nombreuses difficultés, on le sait un petit peu déjà, attendent ceux et celles qui espèrent se sentir bien ou mieux en Suisse et n'être plus considérés comme des étrangers. Et encore bien plus que les hommes, les femmes ont à affronter, souvent au péril de leur santé physique, mentale, des obstacles qui leur sont spécifiques, mais volontiers passés sous les silences, comme je le disais tout au début de cette émission. Alors, j'ai eu envie de donner la parole à ces femmes immigrées, certaines pour des raisons économiques, qui sont en Suisse même parfois depuis très longtemps, 20 ans, vous le verrez pour certaines d'entre elles, et à ces autres femmes tout juste arrivées, comme ces requérantes d'asile qui sont là depuis 6 mois, peut-être même 3 ans, dans l'espoir d'obtenir le droit d'un statut de réfugié. Mais j'ai aussi rencontré des personnes qui se sont engagées, souvent d'abord par conviction personnelle, puis ont trouvé un statut professionnel pour ce travail, afin d'accueillir les femmes, ces femmes en Suisse, et tenter de leur apporter un petit peu d'aide. Vous rencontrerez donc, pendant ces 2 mercredis, un certain nombre de femmes qui ont accepté de parler de leur histoire, de leur vécu, Et bien sûr, vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas toujours facile, soit parce que de parler, cela fait revivre un passé douloureux, ou fait vivre un présent insupportable, et parfois aussi parce que la difficulté à s'exprimer en français empêche de dire ce que l'on voudrait tellement que les autres entendent. Alors, je profite de ce tout début d'émission pour remercier encore très très chaleureusement toutes les femmes qui ont accepté de témoigner de la situation des femmes immigrées en Suisse. J'ai d'abord rencontré Victoria, Victoria Suarez. Son histoire commence dans une gare.
Oui, puisque Victoria, qui est espagnole, est arrivée en Suisse il y a 20 ans en train. En Espagne, elle s'est battue comme jeune fille pour pouvoir étudier, travaillant le jour, étudiant le soir, car sa famille ne pouvait pas lui payer des études. Elle obtient son baccalauréat et suit une formation d'assistance sociale. Mais l'État espagnol ne finance guère des postes dans ce domaine et Victoria n'a personne pour la pistonner, comme elle nous dit. Elle part pour la Suisse en compagnie d'une amie pour tenter de trouver une situation meilleure pour elle et sa famille, à qui elle enverra régulièrement une partie de son salaire. Elle devra attendre plus de 9 ans en Suisse pour repratiquer son métier d'assistance sociale. Mais les difficultés commencent tout de suite à la gare. Le voyage vers la Suisse est très dur.
Alors là, on s'est rencontré avec des femmes et hommes de toute l'Espagne et aussi du Portugal. Chacun avec leur misère, leurs problèmes aussi, et l'incertitude vers où on venait. Alors, le problème se sont posés déjà au départ la nuit. On avait demandé au guide, qui parlait espagnol bien sûr, si on aurait un bar ou un restaurant pour boire, pour manger. Il nous avait dit oui, et c'était faux. Il n'y avait pas. Ni de l'eau, ni de rien pour boire. On s'est débrouillé comme on a pu, mais ça, on n'a pas apprécié. Alors, imaginez-vous, hommes et femmes, tous ensemble, dans des couchettes. Le patron paye ses voyages, mais la couchette, c'est nous qui devons payer, c'est un complément. Donc, nous l'avons payé, le train était complet que pour nous, avec cette immigrée-là. Mais là, je ne sais pas pourquoi les femmes avaient très de réticence, même à enlever une chaussure. On avait peur qu'on volait, qu'on était tous des voleurs l'un envers l'autre. Ce que nous avons fait pour ne pas être si désespérés, nous étions 5. On a changé les couchettes avec une autre personne. Et puis bon, ça ne s'est pas très très mal passé, mais c'est vrai que les femmes là, ils nous croyaient des voleurs. Alors, notre arrivée à Genève, c'était terrible. On est tous débarqués à la gare Cornavin. Il y avait un bus qui nous amenait au contrôle sanitaire. À l'époque, c'était à l'avenue Cheval Blanc. Et hommes d'un côté, femmes de l'autre. Et là, c'était à Nadir et à faire ressortir. Il y avait 2 hommes qui recevaient les hommes et les donnaient des informations. Pour nous, à l'époque, il n'y avait rien. Ni des informations laborales, ni rien. Alors, concernant le contrôle sanitaire à cette époque-là, bien entendu, on nous a mis tous ensemble dans ces salles d'attente, et puis il fallait nous déshabiller, demi-corps, non? On dit demi-corps. Et moi, ce n'est pas ça qui me gênait, loin de là, mais c'est la manière de nous dire déshabillez-vous. On avait le temps de garder un t-shirt sur nous, ou une chemise, et puis quand l'employé nous dit venez, l'enlever tout simplement. Il y avait des femmes qui pleuraient, parce que ces femmes qui viennent des milieux paysans la plupart, pour la première fois aussi, certaines d'entre elles pleuraient parce qu'ils n'étaient pas habitués qu'on leur dise, voilà, devant tout un autre groupe de femmes inconnues, déshabillez-vous la moitié du corps. Donc là, je tiens à le préciser, ça a été très dur pour moi et très touchant. Donc j'ai refusé d'enlever les t-shirts, je les gardais, et puis l'employé n'a pas apprécié, mais il a compris que ça ne coûte rien de dire, laissez juste un t-shirt et puis venez ensuite. Alors, pour nous accueillir à la gare, à cette époque aussi, il y avait certains des gens qui avaient les délégués des entreprises ou les patrons même pour l'hôtellerie, ou même des assistants sociaux espagnols. Mais pour moi, en tout cas, il n'avait rien. Il y avait juste un guide des SOS à la gare, qui m'a dit, vous devez vous débrouiller pour arriver tout seul au lieu du travail, et puis vous montrez votre billet, un billet espagnol, mais qui est marqué en français, s'il vous plaît, aidez les voyageurs, et vous y arriverez. Alors, c'est vrai que grâce à mes connaissances de français, l'aide des contrôleurs était très précieuse, ils m'ont très poliment aidé, très aimable, je suis arrivée. Mais moi, je me pose des questions. Ceux qui ne connaissent même pas la langue, par écrit sa langue, parce que les Galiciens, ils ont une deuxième langue, la langue maternelle galicienne espagnole, comment se débrouillent-ils? Moi, je me pose la question, parce que moi, si les contrôleurs, avec toute l'amabilité, me parlent en français, moi, je me demande comment j'aurais fait, quoi, pour descendre, parce que je dis descendre deux fois pour changer de train. Alors voilà, ça commence un peu les problématiques. Je descends dans un tout petit village frontière avec Brigue. Il n'y avait que la gare.
Donc là, en fait, vous étiez à Brigue. En plus, on ne parle même plus français à Brigue. C'est donc dans la zone suisse-allemande du Haut-Valais.
Voilà, voilà. C'était une anecdote très magnifique parce qu'au ministère d'immigration, j'avais eu à l'école d'assistance sociale l'assistance sociale. Elle m'a dit, oh, ne t'en fais pas, tu vas arriver dans un endroit de langue française. C'est faux, tu parles allemand. Mais il parlait en italien après dans le travail, donc ça allait. Alors, dans ce village, il n'y avait que la gare, puis des montagnes très enneigées à l'époque, pas six maisons. Moi, qui je viens d'un lieu où la neige est rare, où les maisons sont éparpillées dans des milieux montagneux. Et là, j'ai commencé à me sentir très angoissée. Il faisait très froid, tout seul devant ces montagnes. J'ai craqué, si on peut dire. Alors, je me suis rendu compte, je ne dois pas pleurer, mais non, je suis arrivée là, il faut que j'y arrive. Mais moi, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'est les premières larmes qui coulaient, qui coulaient, qui coulaient. Puis quand les bus qui devaient me remonter au petit village où j'étais, devais travailler dans un motel, c'était le divertissement de tous les voyageurs, chauffeur inclus. Et là, je dois dire que j'ai compris qu'en Suisse, interdit de pleurer. C'est les folles qui pleurent et ça, c'est faux. Parce que chez nous, on est habitués à pleurer. Quand on a un malheur, et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que depuis, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de difficultés à pleurer. Mais là, je ne pouvais pas m'arrêter. Alors, j'ai arrivé au lieu de travail, il fallait travailler comme des esclaves. Moi, femme, petite, je travaillais comme un homme et avec un homme. Et je devais laver des casseroles plus grandes que moi, je me suis rendue compte. Et puis, je devais monter sur un tabouret pour arriver à rentrer dans la casserole. C'est égal, tant pis. Je devais faire ce travail, je l'ai fait. C'est pour ça que je tiens à dire que je n'aime pas faire la distinction entre hommes et femmes, parce que là, c'était la même chose, l'homme que la femme. Je faisais un horaire de 6h30 du matin jusqu'à 2h30 de lendemain, avec une pause d'une heure pour manger. Le manger, c'était les restes des assiettes des clients de restaurant. Donc on vidait les assiettes pour les mettre à la machine à vaisselle. Et là, je le suis parce que une fois, tout au premier temps, j'ai vidé ces assiettes à la poubelle. Depuis, j'étais aux casseroles parce qu'il ne fallait pas les vider dans les poubelles. Il fallait les garder pour que nous mangions. Alors, imaginez-vous, je peux manger du pain, mais pas les restes des assiettes. Ça, si on me le dit, je ne crois pas, mais je l'ai vécu. Ce n'est pas une blague. Alors, selon le contrat de travail aussi, il fallait les heures supplémentaires les noter pour être payées ou prises en congé. Mais non, on ne rate pas en matière. Ici, on travaille, donc pas de heures supplémentaires payées ni congé. Alors, vu ces conditions, j'ai contacté l'assistante sociale du Bureau espagnol d'immigration. C'était à Sion pour lui communiquer les injustices et mon désaccord avec celle-ci. Et puis, elle m'a répondu, je le garderai toujours en souvenir, « Quelle idée avez-vous de l'immigration ?»« L'immigration, c'est ça. » Alors, avec cette réponse, mes espoirs sont par terre, mes illusions fanées. Mais il me restait seulement une petite lueur d'espoir dans la lutte que je devais mener pour rester en Suisse, car chez moi, l'avenir était noir. Si si était noir, chez moi, deux fois noir. Alors ici commence le calvaire pour arriver à Genève et y trouver un autre travail. Mais je suis arrivée à Genève, j'ai trouvé un autre travail. Et là, j'étais en dire que j'étais respectée, payée. Donc c'était beaucoup déjà une autre réalité.
Tout à l'heure, Victoria, que les femmes, selon vous, auraient besoin d'un certain nombre d'informations au moment où elles passent le contrôle sanitaire en arrivant en Suisse, parce que, entre autres, arrivant en Suisse, qui est un pays qui vit un peu différemment de l'Espagne, elles vont très certainement aussi pouvoir vivre différemment que chez elles. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des effets de l'influence de la Suisse sur leur mode de vie et comment elles vont pouvoir changer leur existence quand elles arrivent ici, elles vivent ici?
Oui. Parce que moi, maintenant, en me voyant à mon arrivée, j'ai pas mal changé, mais là, s'il y avait une femme qui serait adressée à nous, en tant que femme, voilà, vous venez d'où, comment ça a été le voyage, c'est une manière d'introduire déjà un dialogue. Je vous le garantis qu'on a du succès. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'adresser à une femme. Dans le voyage, on s'adresse à la compagne du voyage, mais on est coincé parce qu'on a des hommes devant nous. Donc, même si on a un imprévu en tant que femme, on n'osera pas lui dire, parce qu'on a honte d'être entendu, à mon époque, bien entendu. Mais il faut savoir aussi que le fait de traverser la frontière en tant que femme travailleuse, on devient économiquement indépendante. Et ça, c'est la raison pour laquelle les femmes ici, même très catholiques, très pratiquantes, vont changer de position face à des éléments comme la contraception, pour éviter une grossesse pas désirée. Et puis, des fois, on rencontre pas mal de ruptures de couple, étant donné que la femme n'est plus soumise à l'homme pour des raisons économiques, elle peut se dire, ça suffit, je n'aime pas mon mari, je le quitte. Donc, actuellement, en Espagne, ça s'est fait comme ça, mais à mon époque, pas du tout. Et même, il y en a encore des coins, en Galice en tout cas, qui ne sont pas très développés encore, qui se posent des questions. Mais il faut bien, bien remarquer que les femmes, la plus soumise du monde, si elle est indépendamment économique, si elle est dans un pays qui est respecté, valorisé, elle va se libérer, elle va faire autrement.
Et ça, vous en avez des exemples concrets de femmes espagnoles qui ont immigré en Suisse et vous avez pu observer ce changement?
Oui, alors c'est Bonnard, parce que j'ai rencontré des femmes galiciennes, donc espagnoles galiciennes et même d'autres autonomies, lesquelles étaient très pratiquantes. Mais vu les conditions, il ne fallait pas avoir un enfant, mon Dieu, parce que ça complique les choses. Et j'étais étonnée de la liberté avec laquelle elle me parlait de ses envies. Il y avait une planification familiale qui se faisait. Et puis d'abord, au départ, le mari ne savait rien. Mais après, on se posait des questions. Et là, elle aura dit à son mari, écoute, moi, je suis allée chez un gynécologue, je fais ce qu'il faut. Et vous ne pouvez pas imaginer, les machos, hein, typique espagnol, être heureux parce qu'il n'avait plus de problèmes pour tomber enceinte, ma femme. C'est incroyable. Un type qui vous dit, mais oh, ça c'est bien, on a la paix pour une fois. C'est pas agréable d'écouter un homme dire ça. Mais d'un côté, entendre la femme qui se sentait bien, qui pouvait aller travailler, qui avait des enfants déjà avec elle, duquel elle s'est occupée, c'est formidable. Mais pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle n'est plus un objet qu'on peut manipuler. Qu'elle peut penser, parce qu'elle travaille autant que son mari, des fois elle gagne plus que leur mari, parce qu'en étant au noir, vous savez qu'on ne paye pas les impôts, c'est vrai. Ce qui fait que des fois, ils sont en salaire plus élevé que son mari, que leur mari. Et moi, je trouve ça formidable.
J'ai ensuite rencontré Pilar. Pilar, arrivée en Suisse, elle aussi, il y a très longtemps, et qui considère qu'elle a suivi un parcours atypique.
En effet, Pilar considère que son parcours d'immigrée n'est pas vraiment typique de la plupart des femmes en Suisse, dans la mesure où elle était, elle, célibataire, sans famille, et que c'est elle qui a fait le choix de partir, contrairement à la majorité des femmes immigrées qui doivent suivre leur mari et dont le statut d'établissement en Suisse dépend de celui de leur mari. Mais par contre, comme beaucoup de femmes immigrées, elle n'a été à l'école que quelques années et n'avait aucune formation professionnelle. En Suisse, elle va travailler d'abord comme domestique dans une famille. Passé le choc de la visite sanitaire, contre laquelle d'ailleurs elle se bat toujours aujourd'hui, elle a essayé de s'intégrer à la vie genevoise.
J'ai vécu à Versoix, et puis je venais toutes les après-midi à Genève pour apprendre le français. Et puis au bout des 3 mois, c'est vrai que j'avais un besoin réel de rentrer en contact avec mes compatriotes. Alors un jour, je suis tombée devant une affiche qui annonçait une pièce de théâtre en espagnol. Je me suis dit, au bout de 3 mois, hein, c'était ça. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir cette pièce de théâtre. Je suis rentrée, c'était à la Maison des Jeunes à l'époque déjà. La Maison des Jeunes, ça a une grande histoire pour moi aussi. Alors je suis rentrée voir cette pièce de théâtre et puis je suis rentrée en contact avec les gens de la troupe. Et en fait, les gens de la troupe, c'était des travailleurs immigrés qui étaient des amateurs. Et j'ai commencé à travailler avec eux, faire du théâtre avec eux. Ça m'a remis dans l'ambiance et puis c'est vrai que mon intégration a été rapide. Hein. Au bout de 3 mois, j'ai retrouvé mes compatriotes et en même temps j'ai trouvé une ouverture à l'extérieur. Comme quoi finalement, le fait de retrouver tes compatriotes ne fait que te mettre bien à l'aise.
C'est-à-dire pour rencontrer les autres.
Pour rencontrer les autres. Parce qu'on dit souvent, oui, si vous n'étiez pas tout le temps entre espagnol ou entre italien, ça irait mieux. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut se sentir bien soi-même pour pouvoir aller chez les autres.
Après, vous avez, je crois, encore eu l'occasion de changer plusieurs fois de travail et qui vous a amené finalement au centre de contact suisse immigré. Est-ce que dans ce parcours-là, le fait d'avoir eu des contacts avec des associations d'immigrés était une chose importante pour vous ?
Alors pour moi, c'est évident que rentrer en contact avec les associations d'immigrés a été le premier pas pour m'intégrer dans les groupes existants dans ces pays même. Hein. Après mon arrivée en Suisse, je faisais déjà partie du troupe de théâtre, je faisais partie d'un groupe femmes et j'étais rentrée à l'association des travailleurs espagnols, plus connue comme ATS, dans laquelle je suis présidente aujourd'hui. Depuis l'ATS, je suis atterrie au centre de contact. Le centre de contact suisse immigré avait déposé une demande de travail pour moi, qui après beaucoup de péripéties a été acceptée.
Et là, vous vous êtes retrouvée à devoir très officiellement vous occuper de l'immigration espagnole et de ses difficultés.
Oui, je m'occupais déjà en tant qu'espagnole surtout, mais là, j'ai commencé à m'occuper en tant qu'immigrée et face aux autorités suisses.
Vous êtes retrouvée encore plus concrètement avec ce qui était les cas typiques de l'immigration et des femmes en particulier?
Tout à fait, je les connaissais, mais c'est vrai que la participation professionnelle au centre de contact, ça a beaucoup élargi mes connaissances. Et là, j'ai vu qu'il y avait des immigrations qui étaient beaucoup plus précaires que l'immigration espagnole. Malheureusement, dans ces pays, c'est vrai que les différents statuts sont une différence de traitement entre les gens, mais en plus, les traitements sont différenciés selon de quel pays tu viens.